France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, Antonín Dvořák fait partie de ces compositeurs dont la notoriété ne s'est fixée que sur une poignée d'œuvres, la trop célèbre symphonie du Nouveau Monde, son concerto pour violoncelle, ses danses slaves éventuellement, son quatuor américain, c'est très peu face à un catalogue qui compte plus de 200 entrées et embrasse aussi bien la mélodie que le quatuor avec piano, la musique sacrée et l'opéra. Aussi, je vous propose de réviser notre Dvorak en compagnie de mon invité, la musicologue Isabelle Levert, qui vient de lui consacrer un livre chez Bleu Nuit Éditeur. Le début du scherzo de la 4e symphonie de Dvorak par l'Orchestre symphonique de Londres, dirigé par István Kertész. Bonjour Isabelle Werk.
Bonjour Philippe.
Vous êtes musicologue, je l'ai dit, et donc l'auteur de ce livre consacré à Antonín Dvorak, qui vient de paraître chez Bleu Nuit Éditeur auparavant. Chez ce même éditeur, vous avez écrit des livres consacrés, entre autres, à Grieg et à Brahms, pour rester à peu près dans cette même période. Il y a également un Liszt, je crois.
Et un Mahler.
Et un Mahler, voilà. Comme ça, Liszt est complète. Dvorak, donc 1841-1904, il meurt à Prague, issu d'une famille modeste, très modeste. Et vous nous expliquez à travers tout votre livre que ce parcours est celui d'un homme qui a toujours beaucoup travaillé, qui a une vie laborieuse,
oui,
qui a connu le succès sans jamais faire d'ombre à qui que ce soit.
Oui, c'est admirable, n'est-ce pas?
Oui.
Ça existe. Voilà. C'est assez touchant son début dans l'écriture, parce que son bagage est assez mince. Il n'est pas autodidacte, mais enfin il est allé à l'école d'orgue de Prague où il a reçu un enseignement pas très suffisant pour composer vraiment. Et ce qui est touchant, c'est son acharnement à écrire, même quand ses camarades se moquent un peu de lui, même quand il est dans l'obscurité la plus complète. Il a déjà, d'ailleurs, dans ses œuvres de jeunesse, même si elles sont inégales, il faut bien l'admettre, il y a déjà de très très belles idées, surtout un sens mélodique tout à fait remarquable.
C'est un peu ce qui fera sa gloire et ce pourquoi on l'aime aujourd'hui, même à tort pour uniquement, je l'ai dit dans l'introduction, deux ou trois œuvres. Mais effectivement, il y a tout de suite chez Dvorak un sens mélodique qui touche.
Moi, je l'adore depuis ma première jeunesse et je m'aperçois que personne ne le déteste. Il est très, très gratifiant à écouter parce qu'il est issu aussi, enfin, c'est une graine qui est tombée dans un très bon terreau. Il est issu d'un pays charmant. D'ailleurs, on est très bien accueillis là-bas. Hein.
Très musical, vous écrivez.
Très, très musical, avec une tradition musicale séculaire et avec un folklore de haute qualité qui est déjà très proche de la musique dite classique. Comme quoi, les compositeurs nationaux pour lesquels j'ai un faible, je crois que vous l'avez compris, ils sont des passerelles assez remarquables pour le grand public, ou considéré comme tel, vers la musique dite classique.
Mmh. Et alors, justement, c'est vrai que j'ai cité en introduction les danses slaves, donc on associe assez facilement, peut-être un peu trop rapidement, Dvorak avec ce folklore, ce terreau national. Il faut rappeler donc que le pays dans lequel il a grandi était alors sous domination autrichienne.
Autrichienne depuis le XVIIe siècle. Et bien sûr, le destin de Dvorak est indissociable de tout un contexte historique que j'ai dû rappeler. Et je précise qu'il est politisé, si vous voulez. Mais il ne faut pas le réduire à cela. C'est surtout un très grand musicien. Il est politisé jusqu'à un certain point. Mmh. Alors, il est porté, ça c'est clair, il est porté dès sa jeunesse par tout un courant évolutif qui fait que la bohème moravie, enfin l'actuelle Tchéquie
oui.
secoue le joug et gagne des points et fait bouger les lignes par rapport au pouvoir impérial autrichien. Mmh. Ça c'est clair. Mais en même temps, bon, Dvorak est soutenu par tout ça, mais vous voyez, il y a des factions à l'époque. Il y a les vieux tchèques, il y a les jeunes tchèques. Les vieux tchèques, ils veulent des compromis avec l'Autriche. Les jeunes tchèques, ils veulent carrément la rupture et l'indépendance totale. Dvorak, dans ses lettres, dans ce qu'il dit, ne prend pas position. Il aime sa patrie, mais il l'aime, disons, d'une façon globale en artiste. Il ressent tout ce courant plutôt comme une belle symphonie.
Le début du premier mouvement du Quatuor pour piano numéro 2, quand on est avec piano numéro 2 de Dvorak, par le bien nommé Dvorak Piano Quartet. Isabelle Werck, une œuvre de 1887. Dvorak a alors donc 46 ans. On retrouve un peu comme dans le scherzo de cette quatrième symphonie, une sorte de générosité mélodique, une dimension presque un peu hymnique dans la musique de Dvorak.
Oui, et puis alors une générosité et une espèce de santé qui lui est tout à fait naturelle et qui est communicative.
Quel genre d'homme était-il, si tant est qu'on puisse deviner la personnalité de ce compositeur, de ce musicien?
Il est solide, il est introverti, un petit peu introverti, sauf avec les gens du peuple. Il préfère parler avec les gens du peuple plutôt qu'avec les gros bourgeois ou avec les intellectuels. Et puis il est foncièrement intègre. Voilà, il est aussi très croyant. Croyant, peut-être pas très pratiquant, c'est pas sûr, mais alors il a un amour très assidu pour son ange gardien. Il a son inspiration qui vient d'en haut. C'est quelqu'un qui cultive la gratitude. Et donc, dans ses partitions, sur un coin de ses partitions, quand il a l'impression que c'est bien fini, que c'est bon, il remercie systématiquement le ciel.
Et c'est également, vous le mentionnez, Isabelle Werck, quelqu'un qui était très sensible et très proche de la nature.
Alors la nature, c'est fondamental pour lui, puisque d'abord c'est le milieu où il est né. Il est né dans un village un petit peu au nord de Prague. Et puis d'ailleurs, il va, vers la quarantaine, il va s'installer à la campagne pour y passer la moitié du temps dans une vie très tranquille en famille, puisqu'il a 6 enfants, une vie tranquille de compositeur campagnard.
En fait, c'est une vie un peu sans histoire, si ce n'est que quand même, il a été appelé à traverser l'Atlantique à un moment.
Tout à fait. Une vie sans histoire. Bon, il y a un drame, c'est la perte de ses 3 premiers enfants. Ouais. Mais après, bon, il y en a eu d'autres. Et puis, c'est vrai qu'il a traversé l'Atlantique. Alors, il est reçu à bras ouverts en Angleterre. C'est vrai.
Il a 9 fois, c'est ça?
Oui. Mais alors, au préalable, il y a autre chose qui est tout à fait décisif dans sa vie, c'est qu'il décroche une bourse d'État autrichienne, pour les jeunes compositeurs dans le besoin.
En 1875, c'est ça?
Voilà. Ouais. Et là, il a 34 ans, et là, donc, sa vie va être complètement changée.
Est-ce que ça veut dire, pardon, Isabelle, que jusqu'alors, que malgré un début qui avait l'air peut-être prometteur, il s'en sortait pas?
Il est soutenu, disons, il a des succès d'estime auprès de la bourgeoisie tchèque qui le pousse. Il a quelques concerts. Il y a l'exemple de Smetana. Ses relations avec Smetana, qui est de 17 ans son aîné, sont très élégantes. L'aîné est très cordial avec le cadet et Dvorak est plein de respect pour Smetana. Mais cela dit, quand il décroche cette bourse que Smetana n'a jamais réussi à décrocher parce qu'il faisait trop de vagues et qu'il était trop trublion, n'est-ce pas? Et oui, là, il y a quelqu'un qui entre en scène, c'est Brahms. Et à partir de là, Dvorak conquiert d'emblée l'estime de très grands personnages de la musique germanique, j'ai envie de dire de la musique tout court. Il y a Brahms, il y a 2 grands chefs d'orchestre qui sont Richter, Hans Richter et puis Hans von Bülow. Il y a Joseph Joachim. Bon, avec Joseph Joachim, il y a eu des petits problèmes avec le concerto pour violon, mais bon, Joachim est un peu caractériel. Voilà. Et puis il y a Hans Lick. Bon, le Hans Lick, le turiféraire. Alors, tous ces gens sont des anti-wagnériens aussi. Ça, c'est encore autre chose. Mais bon, petit détail, sont des anti-wagnériens. Mais alors, ils sont très aimables avec Dvorak, ils font tout pour faire connaître ses œuvres. Je parle de personnages qui n'ont pas été toujours très aimables avec tout le monde. En revanche, ils le poussent très gentiment, ils insistent, ils lui mettent gentiment la pression pour qu'il abandonne Prague, pour qu'il laisse tomber sa patrie, pour qu'il se germanise, pour qu'il s'installe à Vienne. Et obstinément, Dvorak, qui est quelqu'un de... il sait ce qu'il veut. Il refuse, il résiste.
À tel point qu'il ne veut pas qu'on transforme son prénom en Anton.
Oui, par exemple. Et puis alors, il a un éditeur, ça c'est Brahms qui lui ouvre la porte d'un très grand éditeur, qui est Zimrock. Ouais. Voilà. Mais Zimrock, qui est à Berlin, un Berlin sous Guillaume Ier, Guillaume II, qui est Deutschland über alles, il trouve que les Tchèques, c'est des provinciaux. Et alors, Dvorak doit se bagarrer pour qu'on mette ses accents, les accents de son nom et de son prénom. D'ailleurs, mon éditeur, Jean-Philippe Biojou, a eu un casse-tête terrible à mettre tous ses accents dans la maquette du livre, parce que la langue tchèque est bourrée d'accents, et ça, c'est la faute, si je peux dire, à Jan Hus. Voilà.
Très bien. Justement, quel vous nous avez parlé, Isabelle Vergue, de la place que tenait justement son pays dans la mentalité et dans la construction intellectuelle de Dvorak. Et dans sa musique, est-ce que le folklore innerve comme ça l'essentiel de sa musique ou il passe comme ça de temps en temps? Quelle relation entretient-il avec ce folklore national, avec cette musique nationale?
Bon, il suit les traces de Smetana, qui a introduit la polka, par exemple. La polka est tchèque. C'est une danse du sud de la Bohème. Dvorak est un des premiers à introduire, ou je crois qu'il est le premier, à introduire dans la musique symphonique le fouriante, qui est cette danse trépidante, extraordinaire, qui met des accents tous les deux temps, tous les trois temps, comme ça, et qui est d'ailleurs très compliquée à danser, paraît-il. Voilà. Mais bon, Dvorak est surtout quelqu'un qui plonge quand il le veut dans ce folklore. Et puis après, il laisse libre cours à son lyrisme. C'est une stylisation du folklore. Le premier des chants du soir, opus 31 d'Antonín Dvořák par le ténor Pavol Breslik et Robert Pechanek au piano. Isabelle Vergue, Dvořák et la voix, c'est vraiment un pan de son œuvre qui est vraiment méconnu parce que ça englobe mélodie, il y a plusieurs cycles, la musique sacrée, les opéras, on y reviendra tout à l'heure. Quel rapport entretenait-il avec la voix ? Un rapport tout à fait naturel qui est celui de tous ses compatriotes.
C'est ça, ouais. Mais c'est une musique qu'on n'entend tellement jamais, en tout cas en France. On écoutait tout à l'heure son deuxième quatuor avec piano. Déjà, sa musique de chambre est extrêmement méconnue, peu jouée en France, à part l'éternel quatuor américain.
Alors, il s'agit d'une musique de chambre très riche et vraiment merveilleuse. Il est dans une sphère centre-européenne où la musique de chambre a de l'importance. À la même époque, en France, la musique de chambre, on ne s'y intéresse pas beaucoup. Mais il en écrit beaucoup. La musique de chambre est vraiment particulièrement belle, oui.
Musique pour corps, notamment. Lui, il était altiste également.
Altiste, violoniste, il se met au piano un peu comme il peut, voilà.
Alors revenons à la voix. Donc plusieurs cycles de mélodies et également de la musique sacrée. On connaît un peu le Stabat Mater, mais...
Alors le Stabat était un petit peu son œuvre pour essayer d'oublier ou de transcender sa douleur, de sa perte de ses premiers enfants. Il y a le Requiem qui est assez souvent joué quand même. Et puis moi, j'adore sa petite messe en ré qui est très intime, qui est une petite messe campagnarde. D'ailleurs, c'est un ami qui était son voisin de campagne, du village d'à côté, qui lui a dit, c'est un seigneur qui voulait inaugurer une chapelle et qui lui dit, mais est-ce que vous ne voulez pas m'écrire une petite messe pour inaugurer ma chapelle? Et c'est une œuvre exquise, très très tonique comme toujours.
Mais assez peu enregistrée et peu donnée au concert, en tout cas en France. Il est vrai, Isabelle Vergue, vous avez parlé donc de la bourse qui a été accordée à Dvorak en 1875. Et puis après, quelques mots sur ce voyage quand même aux États-Unis. Il s'y installe en 1892. Et ça, il reste
trois saisons. Ouais. Oui.
Il dirigera le conservatoire, c'est ça?
On lui confie la direction du conservatoire, la direction de l'orchestre du conservatoire et l'enseignement de la composition.
À New York.
Alors, c'est une très riche mécène américaine qui n'hésite pas à se ruiner. Elle est millionnaire, mais avec un compte en banque au rouge parce qu'elle dépense tout ce qu'elle a pour la musique. Et bon, donc le conservatoire, c'est pas un fardeau hein, pour Dvorak, qui a des élèves américains passionnés par la musique locale. Alors, il a une mission un petit peu tirée par les cheveux, de créer une musique nationale américaine. Bon, alors lui, ça le fait un peu rire dans sa barbe. Hein. Mais il a quand même des élèves très intéressés. Et alors, ce qu'il dit, c'est que la vraie musique américaine, c'est certainement pas ces choses importées de l'Irlande ou de l'Écosse, mais c'est la musique des Noirs, les gospels, les spirituals, et puis la musique encore moins connue des Amérindiens. Il va se passionner. Bon, déjà, il a un cœur qui va tout droit du côté des damnés de la terre. Hein. Donc, il va se passionner pour les Noirs qu'il reçoit dans sa classe. Hein, qu'il fait chanter tout leur répertoire d'anciens esclaves. Pour ça, la presse new-yorkaise est un petit peu sidérée hein, de ses prises de position.
Et qu'est-ce qu'il va retenir, Isabelle Werck, Dvorak, de ce séjour à New York? Bon, bien sûr, on connaît tous l'Équateur américain et la Symphonie du Nouveau Monde, mais est-ce que ça a modifié sa façon de composer après?
Je ne pense pas.
Non.
Alors, la symphonie du Nouveau Monde, que nous n'écoutons pas, c'est une très belle symphonie beethovenienne avec quelques éléments d'écriture modale un petit peu exotique qui ne gâtent rien. Voilà. Mais c'est une 10e, 11e de Beethoven. Hein. Et puis, disons qu'en Amérique, oui, il a essayé de, sans les citer, essayer de faire des choses un petit peu à la manière de ce qui l'entourait. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans son séjour américain, alors qu'il était très populaire, il s'était forcé de vivre la même vie que dans sa petite campagne de Visoka. Il se lève très 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 tôt, il va se coucher avec les poules, il ne sort pas. Il va voir les pigeons parce qu'il adore les pigeons. J'avais oublié d'expliquer ça.
Hein. Vous en parlez dans le livre.
Oui. Dans le livre, oui. Il a un colombier chez lui et ça lui manque terriblement. Donc il va voir les pigeons de Central Park. Et voilà, donc il continue à mener sa vie de tranquille. Hein. Et puis, bon, il s'occupe de ses élèves avec beaucoup de sollicitude.
Thank you.
Un extrait du Diable et Catherine, un opéra d'Antonín Dvořák, soliste chœur et orchestre de la WDR de Cologne, dirigé par Gert Albrecht. Isabelle Werck, Dvořák et l'opéra, vous écrivez que pour lui c'était une écharde. Pourquoi ça a été à ce point-là si difficile, les rapports qu'ont ils ont été si compliqués?
Il en écrit trop. Il en écrit 10, il en écrit des très sérieux, historiques, à but patriotique, et là il se fourvoie un petit peu.
Là, parce que la musique n'est pas...
Si, c'est de la belle musique, il est incapable d'écrire de la musique qui soit pas belle, mais c'est un peu lourd tout ça. En revanche, il a la main très très heureuse dans les choses comme ce qu'on vient d'entendre, d'inspiration comique, ou dans des choses d'inspiration populaire, comme le Jacobin, c'est une histoire villageoise.
Et Roussalka, qui a plutôt la faveur des scènes internationales.
Roussalka, c'est un très beau poème, c'est très 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 joli. Voilà. Ce qui nous arrête un petit peu nous vis-à-vis de ce répertoire, ce qu'il a écrit de mieux pour la scène, c'est, je crois, l'obstacle de la langue. Encore que maintenant, il y a des sous-titres dans les salles d'opéra.
Mais donc pour vous, ça reste peut-être la partie la plus faible de son œuvre, en tout cas la plus hétérogène.
Oui, la plus hétérogène. Et puis alors lui-même, à la fin de sa vie, abandonne la symphonie. Sa dernière symphonie est de 1893, il lui reste 11 ans à vivre. Et il dit en public, je ne veux plus écrire de symphonie. C'est bien dommage. parce que on les joue un soir ou deux, et que, en revanche, un bon opéra... Pour le peuple, c'est pas pour ma gloire, c'est pour le peuple, un bon opéra aura beaucoup plus de succès et d'impact. Il suit le modèle de Smetana. Il est un peu, il veut refaire La fiancée vendue, quoi. C'est un peu ça.
Isabelle Werck, un tout dernier mot sur qui s'intéresse un peu à l'œuvre de Dvořák et à son catalogue, un numéro d'opus. Il y a aussi des B, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, ça, c'est la faute à son éditeur, Zimrock.
Quelques mots.
Qui était très commerçant, et qui mettait des numéros d'opus arbitraires à des œuvres, et qui sont restés très longtemps, ces numéros d'opus, et les numéros de symphonie, la septième était la numéro 2, etc. Alors, il y a eu le musicologue Burkhauser, Jarmil Burkhauser, tchèque, malgré son nom allemand, qui a donc fait le catalogue intitulé B, et lui, il a mis tout bien en ordre.
C'est-à-dire que toutes les œuvres sont
par ordre chronologique. Oui.
D'accord. Voilà. Et donc on arrive à un total de quelques 200 œuvres, c'est ce que je disais tout à l'heure. Isabelle Werck, un dernier mot, si vous deviez retenir que 4 ou 5 œuvres de Dvořák, quelles sont les œuvres qui vous sont les plus familiales, les plus proches, qui après l'écriture de ce livre vous ont rapproché peut-être de Dvořák?
Plusieurs symphonies de 6 à 9 quand même, le quintet américain, le quatuor américain, les quatuors avec piano. J'adore sa musique de chambre, la sonatine, c'est toutes ces choses charmantes pour violon, piano, les pièces romantiques, voilà.
Très bien, merci beaucoup Isabelle Werck. Je rappelle le titre de votre livre, tout simplement Antonín Dvořák, qui vient de paraître chez Bleu Nuit éditeur. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, la technique Philippe Mercher, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous parlerons en compagnie de Jean-François Boukobza des études pour piano de Ligeti. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.